Vous écoutez
RMC.
Crunchies, when it crunches, that's what I love. Nestlé Crunch.
Eh oui, manger du crunch, il y a 48 ans, le crunch était vraiment différent, Christophe.
Oui, ce 19 février 1977, il est un petit peu moins de 15h lorsqu'une véritable bronca se lève des travées de Twickenham. Sifflé, insulté, même crachat. Voici comment l'équipe de France de rugby est accueillie par les supporters anglais. François Sarangali était ce jour-là l'un des centres de l'équipe de France. Alors, je crois qu'on a un petit problème technique. Alors, si l'Angleterre, jusqu'au début des années 70, traite les rugbyens français avec mépris, depuis quelques saisons, les choses ont changé. Les 7 défaites encaissées par le 15 de la Rose en 10 ans ont fait déborder la théière. Il n'est pas question cet après-midi que les Frogs viennent encore battre les fils fiers d'Albion. Depuis une semaine, la presse tabloïde anglaise s'est donc emparée du sujet et à coup de papier incendiaire tente de remonter la foule. L'ancien journaliste de l'équipe, Francis Delterral, se souvient de cette ambiance.
Via la presse anglaise. Parce que là, les joueurs français ont chargé énormément. Ils ont été agressés verbalement. Dans les écrits de certains journaux à scandale, la presse là s'est emparée de ce match pour dénoncer la violence des avants français, notamment de Cholet, Bastia, Palmy, Imbernon.
Et il faut dire que le pack de l'équipe de France fait peur. Les avants des Bleus, vêtus, sont qualifiés de horde sauvage. Et un quotidien britannique appelle même à descendre Jean-Pierre Bastia, auteur la semaine précédente d'un mauvais geste contre le Pays de Galles. À l'heure du coup d'envoi, Roger Couder et Pierre Albaladejo, les commentateurs d'Antenne 2, ne sont pas non plus des plus rassurés.
Décidément, on a un petit problème. Oui, alors avec, on a un problème de son, mais c'est pas grave. Tu peux nous raconter. Voilà.
Donc en fait, les deux commentateurs sont très inquiets. Pourtant, le 15 de France, mené par un petit caporal nommé Fourou, va s'accrocher. Le Catalan Jean-François Imbernon était ce jour-là au cœur de l'action.
C'est sûr que maintenant, avec la loupe et les nouvelles règles d'aujourd'hui, peut-être qu'on aurait fini à 3 contre 3 devant, mais bon, je sais pas.
Si les marrons et les coups de crampons sont légion, en revanche, les points tardent à venir. À la mi-temps, les deux équipes sont à égalité, 0 à 0, et il faut attendre l'heure de jeu pour qu'enfin Sangali inscrive le premier et seul essai de la partie.
Aguirre, Avrous qui surgit, et Sangali, c'est l'essai non transformé, 4-0. Ignel, qui avait manqué 5 buts, dont 3 faciles, passait celui-ci 4 à 3. C'était le score final.
Eh bien, on s'en souviendra de ce dernier quart d'heure à Twickenham. On s'en tire, la route du Grand Chelem reste ouverte. Et après ce qu'on a vu aujourd'hui, je crois que tout est possible à l'équipe de France.
Et pourquoi pas? Je vous sens toujours optimiste, Roger, c'est chouette ça.
Et ils avaient bien raison d'être optimistes, Roger et Bala, car ces petits, c'est comme ça que les appelait Roger Couder, vont poursuivre leur route vers le succès et offrir à la France le deuxième grand chelem de son histoire. 4 batailles victorieuses que la horde sauvage livra sans encaisser le moindre essai et qu'elle disputa avec les 15 mêmes hommes de la première à la dernière minute de ce tournoi 77.
France-Angleterre 1977, raconté par Christophe Sessieux. Tu te souviens bien de ce match, mon cher Philippe Saint-André?
Ouais, parce que c'est mon premier vraiment souvenir de l'équipe de France, cette génération. Après, il y avait quand même des beaux joueurs. La troisième ligne, Jean-Pierre Rive, Bastia, Jean-Claude Scrella, c'était assez exceptionnel. La même charnière, Jacques Fauroux, Jean-Pierre Romeu, un ailier très costaud qui s'appelait Jean-Luc Averrous. Mais c'est vraiment pour moi, voilà, je suis tombé amoureux du rugby par cette équipe de France de 77, qui est vrai, était assez violente au niveau du paquet d'avant, parce qu'il y avait quand même des sacrés gaillards.
Est-ce que tu es triste que cette rivalité n'existe plus, ne soit plus aussi forte que celle qui a pu avoir lieu à ton époque ou en 77?
Non, parce que moi, quand j'étais joueur, à un moment donné aussi, c'était très chaud. Les tests entre 88 et 95 étaient compliqués. On se souvient de la Coupe du Monde 91 au Parc des Princes où ça s'était très mal passé. Et j'ai envie de dire, c'est un petit peu notre génération. Pourquoi? Parce qu'il y a eu cette victoire en 95 en Afrique du Sud où on a fini et on a fait une troisième mi-temps avec l'équipe anglaise. Et donc, on a commencé à créer des liens. Et après, on est parti jouer en Angleterre, Philippe Sella, Laurent Cabane, moi. Donc on est tous, on a une génération où on est parti jouer en Angleterre, et donc après ça a complètement changé. Maintenant c'est les Anglais qui viennent jouer en France, et donc il n'y a plus, on va dire, l'animosité qu'il pouvait y avoir avant.
Il n'y a plus la détestation. Ça veut dire, Christophe, qu'on est, on est un peu potes avec les Anglais aujourd'hui?
Il y a un respect.
Potes, on va pas aller jusque là quand même, mais il y a un certain respect. D'ailleurs, il y a beaucoup de rugbyman anglais qui viennent jouer actuellement dans le championnat de France. D'abord parce qu'il y a plus de sous à se faire en France qu'en Angleterre. Il y a moins cette haine ancestrale qu'il y avait là. On n'a pas pu entendre le témoignage de François Sangali, qui était le centre de l'équipe de France, qui marque l'essai, mais qui dit, au moment où on est entré, on s'est fait cracher dessus quand même. Quand tu es dans le couloir, que tu rentres sur la pelouse de Twickenham, quand tu te fais cracher dessus, tu te dis, là, les mecs vraiment nous en veulent. Ils nous en veulent pourquoi? Parce que la presse avait été odieuse tout au long de la semaine, avait appelé les foules anglaises finalement à se faire les Frogs. Et ça, aujourd'hui, tu as plus ça. Quand ouais. tu rentres à Twickenham, il y a du respect, les hymnes ne sont pas sifflés, tout va bien. Même si évidemment, on se fait ouais. un peu
juste,
quand même.
Juste par exemple, Will Carling, on le détestait. C'était le capitaine de l'équipe de France dans les années 90. Il était capitaine aussi quand j'étais capitaine. Là, il m'a envoyé un message pour me demander si j'allais à Twickenham et on va boire un verre ensemble la veille du match. Donc on peut voir que on a été les pires ennemis.
En 77, c'était impossible.
En 77, je pense dans les 15 qui commençaient, il ne devait pas avoir un Français qui parlait anglais. Il y a aussi ça, l'évolution de la langue, etc., qui a changé énormément. Mais non, en 77, c'était la guerre. On parlait de Jeanne d'Arc, etc., avant un match.
Quand toi tu as entraîné là-bas en Angleterre, tu as été un des pionniers français à réussir là-bas, à t'expatrier là-bas. Quand t'arrives au début, comment ça se passe? Est-ce que t'es vu, t'es regardé du coin de l'œil ou non? T'as vite été adopté?
Au début, oui, ils se demandent. En plus, moi, je signe à Gloucester, donc à Gloucester, c'est près du Pays de Galles, c'est un club qui a un ADN d'avant et tout. Et là, il y avait un Frenchie, un trois quarts qui arrivait. Donc les mecs, ils disaient, est-ce que vous allez nous amener du French flair dans l'équipe? Parce qu'ils n'avaient jamais vu un essai des trois quarts pendant 10 ans. Mais après, voilà, j'ai été accepté, parce que ça s'est bien passé.
Tu parlais anglais quand t'es entraîneur?
Non,
à Gloucester.
Quand je suis arrivé, je ne parlais pas très très bien anglais, et par contre c'est là la beauté. 2 ans et demi après, je gérais le club et j'étais patron du club.
Et moi je me rappelle d'un moment qui a aussi fait pour la réconciliation entre les peuples, c'est cette fameuse demi-finale de la Coupe du Monde entre la France et l'All Black qui se déroule à Twickenham en 99, et où les supporters anglais avaient pris fait écho pour l'équipe de France, et ils ont chanté la Marseillaise,
c'est vrai,
en cours de match. Alors ça, si j'avais cru un jour assister à ce genre de choses, c'était dingue.
Mais après, c'est
ça qu'on chante God Save the Queen, non, faut pas non plus. Hein.
Mais après, ça va être quand même chaud samedi, hein, parce que là-dessus, ils vont être à Twickenham, ils vont être derrière leur équipe, et le match va être compliqué. Quand même.
Ok, c'est toujours bouillant, mais il n'y a plus de haine.
Voilà, il y a beaucoup de respect maintenant, et puis surtout avec le rugby professionnel, beaucoup de Français qu'on joue en Angleterre, et maintenant les meilleurs Anglais jouent dans le championnat de France.
Vincent Moscato, il est d'accord avec toi ou il les déteste?
Vincent,
il a de mauvais souvenirs face à l'Angleterre.
Son dernier match en équipe de France,
c'est un carton rouge
contre les Anglais, et en plus par respect avec les Anglais, il était venu avec un smoking blanc alors que la soirée était en smoking noir. Donc, et vu qu'il avait pris un carton rouge, il a eu un moment de solitude durant cette soirée.
On l'avait pris pour le serveur, non?
Ouais, et surtout, il n'est jamais revenu en équipe de France après ce match-là.
Ouais, bon, en tout cas, pour retrouver Vincent Moscato.
Mais on l'embrasse,
sa bande,
j'aimerais bien qu'il vienne demain, en smoking blanc demain pour l'émission.
Demain à 15h, de 15h à 18h. En plus, c'est à la télé maintenant également sur RMC Story. Pourquoi pas l'idée du smoking blanc? On va glisser ça à Adrien Aiguin et à Pierre Dorian.